Chers auditeurs et auditrices, nous continuons la série, la deuxième série, concernant l'importance de la rédemption. Nous arrivons à l'étude numéro 5, et là, nous aurons quatre petites études qui sont les suivantes. Premièrement, la parabole du semeur. Deuxièmement, la victoire du second Adam. Troisièmement, le bon samaritain. Et quatrièmement, la coupe du salut. Donc, premièrement, nous avons la parabole du semeur. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais, hélas, quand le soleil parut, elle fut brûlée faute de racines. Mais une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba, heureusement, dans la bonne terre, et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est Saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. En expliquant cette parabole à ses disciples, Jésus leur dit : Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il y a donc pour le chrétien des revendications que l'homme de la rue n'arrive pas à comprendre. Et ce jour-là, Jésus prend pour image un fait que tout le monde a vu et connaît. Ce sont les semailles. Peut-être la chose se passait devant Jésus au moment où il parlait. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, on ne procède pas de la même manière, évidemment. Le semeur prenait une sorte de sac attaché autour de ses reins, plongeait sa main dans le sac pour prendre une poignée de grains qu'il semait à la volée tout en marchant. Aujourd'hui, on a des machines et des moyens plus modernes qui n'existaient pas en ce temps-là. Par contre, en Afrique du Nord, des indigènes ensemencent leurs champs ainsi. Ils avaient un petit coin de terre. Il y avait ici des épines, plus loin des ronces, et un chemin rempli de cailloux passés par là. Et oui, c'était exactement, on peut dire, la même image. Exactement. Que sème le semeur de la parabole. Oui, que sème le semeur de la parabole. Voyons cela de plus près. Eh bien, il sème, chers amis, la Sainte Parole. et le grain est tombé sur 4 espèces de terrains très, très différents. Une partie est tombée sur le chemin, la terre était dure, la semence n'a pas pu pénétrer, les oiseaux du ciel ont vu là un merveilleux petit déjeuner tout préparé. Ils sont venus là et ont tout avalé. Une autre partie est tombée au milieu des pierres et des ronces. Cette petite semence a pris racine, mais voyez-vous, comme il y avait peu de terre, celles-ci ont été arrêtées par la roche. Il y avait beaucoup de tiges et pas de racines. Alors cela n'a pas tenu. Quand le soleil a brillé, la tige s'est desséchée. Dans l'autre endroit, il y avait des épines. On aurait dû les enlever avant d'y jeter la semence. Et celle-ci est tombée au milieu des épines bien enracinées. La petite semence a fait tout son possible pour pousser. Mais voilà, il n'y avait pas assez de place et elle est morte étouffée. Cependant, il y avait aussi de la terre très bonne. La semence a trouvé un terrain riche où elle a pu germer et croître. Les racines se sont développées en bas, la tige en haut, et ensuite elle est venue là par un épi. Il a pu se former un épi où les grains ont pu se développer. Dans l'explication de cette parabole, Jésus montre que la sainte parole de Dieu peut tomber dans des cœurs totalement différents, le long du chemin, le terrain pierreux, les épines et, heureusement aussi, dans la bonne terre. Bien des gens aujourd'hui sont entraînés par la séduction des richesses. Ils veulent gagner de l'argent avec le moins de peine possible. Quand on leur parle de Jésus-Christ, ils écoutent, mais ils oublient vite. Car le malin vient. Il vient et enlève la semence de la sainte parole de Dieu. Celui qui a reçu la semence au milieu des épines, c'est celui qui est occupé par les soucis de ce siècle et par l'amour de l'argent. Cela me fait penser à un homme qui était très riche et qui s'enrichissait toujours. Il n'en avait jamais assez. Or, un jour, j'ai décidé de lui parler. Je lui ai donné un Nouveau Testament en disant « Prends-le et lis-le jusqu'au bout. Et quand tu auras terminé, tu me diras ce que tu en penses. » Eh bien, au bout d'un certain temps, il est revenu, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il n'avait absolument rien compris. Il n'a rien vu, car il était lié par la séduction des richesses. Heureusement, il y a de la bonne terre. Celui qui a reçu la Sainte Parole dans de telles conditions, c'est celui qui la comprend et qui porte du fruit. un chrétien en amène 100, un autre 60, un autre 30. Les racines de la semence pénètrent profondément dans la terre. La tige grandit, l'épi se forme ainsi que les grains. Remarquez que la terre avait été préparée par un profond labour. Pourquoi ? Mais pour recevoir la semence. Ainsi, il faut que nos cœurs soient également labourés par la charrue de l'Évangile. Beaucoup de gens n'auraient pas accepté le salut s'ils n'étaient pas passés par de dures épreuves ou de cruelles maladies. Dieu a donc permis que leur cœur soit labouré et plus tard, ils sont devenus des chrétiens fidèles. Je pense à la Normandie. Entre les années 1930 et 1939, il y a eu un très grand réveil. Toutes les villes et tous les villages ont été touchés et de grandes assemblées ont été fondées. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le réveil à ce moment-là? Eh bien, parce qu'il savait à l'avance l'épreuve terrible de la guerre qui allait tout ravager. Que dire de ce qui est arrivé au Congo belge, au Zaïre, avant les événements dramatiques qui ont ensanglanté le pays? Il y avait du nord au midi toute une chaîne de missions. Quand la persécution est arrivée, beaucoup étaient convertis et ils ont pu tenir ferme pour l'Évangile. Beaucoup furent tués, coupés en morceaux, même dévorés. Certains furent empalés. Et je ne sais si vous réalisez ce que signifie cet horrible, terrible supplice. Mais ils ne renièrent pas leur foi et furent fidèles au Seigneur. Oui, il y a souvent des obstacles au message de la Sainte Parole de Dieu. Certains cœurs ressemblent au bord du chemin, d'autres au terrain pierreux, d'autres au champ d'épines, mais gloire à Dieu, il y a de la bonne terre. Je voudrais, avant de conclure cette petite étude, vous laisser deux paroles, une pour le salut, l'autre pour la guérison. J'espère que vous allez les accepter. Voici la première pour l'assurance du salut. Il est dit dans Saint Jean, au chapitre 5, verset 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » J'ai dit Saint Jean, chapitre 5, verset 24. Donc si vous acceptez cela, vous possédez la vie éternelle. Vous êtes passé de la mort à la vie et vous ne viendrez pas en jugement, car Jésus a été jugé à votre place sur le mont Golgotha. Maintenant, voilà une parole pour la guérison. Il est dit dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. J'ai dit la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Jésus a porté nos péchés sur la croix. Mon cher frère et ma chère sœur, acceptez-vous cette parole? Vos péchés ne sont plus sur vous. Jésus-Christ les a ôtés et les a expiés au calvaire. Mais avec le salut, il y a la guérison du corps. La parole est formelle. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Les souffrances physiques de Jésus-Christ, ses meurtrissures, ses mains et ses pieds percés, son front déchiré par les épines, son dos flagellé et son côté ouvert par la lance du soldat romain, tout cela est le prix de votre guérison. Chers amis, si vous croyez ces deux promesses, vous pouvez aujourd'hui même être sauvé dans votre âme et même guéri dans votre corps. Notre deuxième étude, c'est la victoire du second Adam. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Le premier Adam était une créature merveilleuse. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Genèse, chapitre 1, verset 26. Adam fut donc fait à l'image de Dieu. C'était un être physique et moralement très beau. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. En effet, c'est la composition chimique du corps humain. Le souffle de Dieu a donné la vie. Quelle fut donc la mission que Dieu lui donna? Il lui dit tout d'abord de dominer sur la création, puis de croître et de multiplier afin de remplir la terre et aussi de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Toute sa nourriture était prévue par Dieu qui faisait pousser ses fruits de toutes sortes sur les arbres du jardin. Adam n'avait pas besoin de vêtements pour se couvrir, ni de logement pour se mettre à l'abri, car il n'y avait ni pluie ni orage dans le jardin d'Éden. Adam avait toute liberté, excepté de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais, hélas, il désobéit, et ce fut la cause de sa condamnation. Les Saintes Écritures nous enseignent que l'homme a dégénéré de génération en génération. La chute de l'homme a apporté la malédiction sur la terre, sur les animaux et même sur les végétaux. La peine et la douleur sont le résultat de cette chute. De même que les maladies et les infirmités sont la conséquence du péché, le péché a causé la mort physique et spirituelle de la race humaine. L'humanité n'a pas évolué des singes aux hommes, mais plutôt des hommes aux bêtes, selon qu'il est écrit dans Romains, chapitre 1, verset 21. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux. Et oui, ils ont fait des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré, c'est vrai, et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Et c'est vrai, encore aujourd'hui, de plus en plus du reste, malgré l'évolution soi-disant super intelligente de l'être humain, il y en a encore beaucoup, beaucoup, qui adorent des idoles. Oh, ces idoles sont tellement différentes les unes des autres, on pourrait en faire un livre. Je pense que si Adam n'avait pas désobéi, il est possible que Caïn, par exemple, aurait pris la voie de la révolte. Dieu a été sage en permettant ta chute, plutôt la chute du premier homme. Et c'est vrai, il a été sage, car si un homme nous a perdus, ce qui est vrai, un autre homme nous a sauvés, et ça c'est le Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, chapitre 5, verset 14, « La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est une figure de celui qui devait venir. Le premier Adam a apporté le péché, la maladie et la mort. Le second Adam a apporté le pardon, la guérison et la vie. La gloire du premier Adam était dans son corps quand il a vu Ève pour la première fois. Il s'est écrié « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair ». Genèse, chapitre 2, verset 23. Il en fut très fier. Or Dieu ne voit rien de bon dans notre chair qui est, hélas, souillée à ses yeux. Quand le prophète Ésaïe prophétise sur Jésus, il décrit son aspect extérieur. Il dit « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Ésaïe, chapitre 53, verset 2. Mais Dieu, son Père, a pris plaisir dans sa perfection spirituelle. Voici ce que dit saint Paul. Il nous explique dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 49, « De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Dans notre état naturel, nous sommes de pauvres pécheurs perdus dans nos fautes et dans nos péchés. Le second Adam, qui est Jésus-Christ, est venu pour nous apporter le pardon, le salut et la vie éternelle. Chers auditeurs et auditrices, notre troisième petite étude, c'est le bon samaritain. Cela se trouve dans saint Luc, chapitre 10, verset 25 et jusqu'au verset 37. Mais vous pouvez simplement lire saint Luc, chapitre 10, verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu d'une embuscade de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Jésus annonçait la bonne nouvelle sur la place publique, quand tout à coup, un docteur de la loi se leva pour l'éprouver. Il dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus, voyant qui il avait devant lui, le renvoya à la loi qu'il devait très bien connaître. « Tu connais les commandements. » Mais l'homme voulait se justifier et demanda « Qui est mon prochain ?» C'est ce qui amena Jésus à répondre par une parabole. C'est la parabole du bon samaritain. Il lui dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Pour bien comprendre, il faut que je vous décrive la scène. Jérusalem est la cité de David bâtie sur des montagnes. Elle représente la cité céleste. Un chemin glissant et pierreux descend jusqu'à Jéricho, la ville de la malédiction. Cet homme est le type de l'homme irrégénéré qui suit la mauvaise voie. Car il n'y a que deux chemins, le sentier étroit pour les sauvés et la route large pour les perdus. Il tomba au milieu des brigands. Le chemin qui descend est plein de brigands, de démons qui s'attachent à l'âme et l'esprit pour l'entraîner vers la perdition éternelle. et aussi au corps pour provoquer les maladies. Ils le dépouillèrent donc, le chargèrent de coups et le laissant à demi-mort. Satan et ses démons entraînent ceux qui descendent de plus en plus dans le péché. Une passion conduit à une autre. Bientôt, elles deviennent maîtresses. La conscience meurt et l'âme ne distingue plus ce qui est bien de ce qui est mal. Satan est aussi l'auteur des maladies qui détruisent les âmes et les corps. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie, car il est écrit dans Jacques, chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Le pauvre homme de notre parabole, frappé par les brigands, était couché sur le bord de la route. Il y avait encore en lui une trace de vie. Il dut se dire, « Eh bien, j'ai donc choisi le mauvais chemin. » Et il eut le désir d'être sauvé. Ça se comprend. Voilà qu'un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa tout simplement outre. Remarquez ce petit mot, par hasard, car il ne cherchait pas du tout cet homme. De même aujourd'hui, des responsables religieux ne cherchent pas les âmes perdues comme ils devraient pourtant le faire. De même, un lévite, simple prêtre dans la religion des Juifs, passa également son chemin. Mais voilà qu'un Samaritain qui passait par là, fut vraiment ému de compassion. Les Juifs et les Samaritains étaient deux peuples ennemis. Ils se détestaient mutuellement. Ce Samaritain est l'image du Seigneur Jésus qui vient pour sauver le pécheur tombé dans une terrible condition. Il est brisé, dépouillé, meurtri, couché sur le bord de la route de la vie. Jésus vient jusqu'à l'endroit où se trouve le pauvre pécheur, et il va même jusqu'aux portes de Jéricho. Durant son ministère terrestre, Jésus a cherché les âmes perdues. Il a trouvé la femme samaritaine alors qu'il était assis sur le rebord du puits de Jacob. Il lui a dit, « Si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », eh bien tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Et il t'aurait donné de l'eau vive, l'eau de la vie. C'est écrit dans Saint Jean, au chapitre 4, verset 10. Et il l'a conduite sur le chemin du salut. Il s'est également penché avec compassion sur le paralytique de la piscine de Bethesda. Pauvre et misérable, car personne ne s'occupait de lui. Et quand Jésus lui demanda « Veux-tu être guéri ?» il répondit « Mais je n'ai personne. » Il était seul et abandonné par sa parole, Jésus sauva son âme et guérit son corps. La première chose qu'éprouva le Samaritain, c'est la compassion. Ensuite, il fit tout ce qui lui était possible de faire pour le sauver. Il banda ses plaies et pour en adoucir la brûlure, il y versa de l'huile et du vin. Le Seigneur Jésus est le même. Son ministère n'a pas changé. Il vient au secours de tous ceux qui sont blessés sur la route. Il veut les sauver et guérir leurs blessures. Il versa de l'huile qui représente le Saint-Esprit. Voici ce que nous dit la Sainte Parole de Dieu au sujet de Jésus-Christ. Prenez le psaume au chapitre 45, verset 8. Il est dit, « C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Dans l'Ancien Testament, les rois et les sacrificateurs recevaient l'onction d'huile. Quant au vin, c'est le symbole de la joie et de l'allégresse dont le Seigneur Jésus remplit les âmes de tous ceux qui se sont donnés à lui. Il le mit sur sa propre monture et il le conduisit à une hôtellerie et prit même soin de lui. Jésus ne laisse jamais les blessés le long du chemin. Après nous avoir sauvés, il nous met sur sa monture, c'est-à-dire la foi. Et de même que le bon Samaritain marchait à côté du blessé pour le soutenir, il ne nous laisse jamais seul sur le chemin de la cité céleste. L'hôtellerie, c'est l'Église. Et c'est là que l'on peut trouver la nourriture et le repos. Il y a du pain, il y a du lait, il y a de la viande dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Puis le Samaritain prononça ces paroles d'espérance qui se trouvent dans Saint Jean, au chapitre 14, verset 2 et le verset 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers amis, Jésus va bientôt revenir. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe dans la nature et dans la vie de tous les jours. C'est horrible. Je suis sûr que le pauvre blessé couché sur le bord de la route a dû appeler au secours. Et le Samaritain a répondu à son cri. Si un blessé qui écoute ces paroles est couché sur le chemin de la vie, qu'il appelle, un simple cri suffira. Chers amis, nous arrivons à la quatrième petite étude. C'est la coupe tu salues. David dit au psaume 116, verset 13, « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le saint nom de l'Éternel. » C'était pour lui la coupe des bénédictions et du salut. Cette coupe, Jésus l'a vue en vision dans le jardin de Gethsémané. Elle était remplie pour lui de malédiction et de souffrance. Saint Matthieu nous en donne une description dramatique. Il est dit « Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et priez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Saint Matthieu, chapitre 26, les versets 36 jusqu'au verset 39. Avant de quitter le ciel, Jésus-Christ savait ce qui l'attendait. Il venait mourir pour un monde de pécheurs. L'ombre de la croix se projetait au travers de tout son ministère. Et au moment de s'offrir pour notre salut, trois fois consécutives, il implora son Père. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il me semble entendre le Père de lui répondre, mon fils, hélas, il faut la boire, car il n'y a pas d'autre moyen pour sauver les hommes, pour sauver cette humanité. Et quand Jésus a accepté de boire cette coupe de souffrance et de maladie, il l'a vidée jusqu'à la lie. Il n'y a pas eu une goutte, pas une seule goutte que Jésus-Christ n'a pas bu. Béni soit donc son saint nom. J'aimerais vous présenter la coupe pleine, ensuite la coupe vide, et enfin la coupe remplie à nouveau. Eh bien, la coupe pleine, c'est celle que le Seigneur Jésus devait boire dans le jardin de Gethsémané. Qui avait-il dans cette coupe pour que Jésus prie ainsi? Il y avait tout d'abord la souffrance. Il sentait par avance les coups de fouet donnés par les soldats et de tous ceux qui étaient avec les sacrificateurs. Il sentait déjà la couronne d'épines s'enfoncer dans sa tête, les clous s'enfoncer au travers de sa chair, de ses mains, et sans oublier ses pieds. Il sentait aussi toute la souffrance qu'il allait endurer sur la croix. Et devant cette foule curieuse et moqueuse, qui lui jetait même toutes sortes d'injures. Il y avait aussi la honte dans la coupe que le Seigneur Jésus devait boire, car mourir sur une croix était la pire chose qu'un juif pouvait imaginer. Car il était écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et lui, Jésus-Christ, était au milieu des trois croix, comme s'il était le plus grand malfaiteur de l'humanité. Il sentait aussi la honte d'être traîné devant Caïphe et devant Hérode. Il entendait d'avance toutes les injures de cette foule qui allait se presser autour de lui. « Si tu es le Fils de Dieu, descends donc de la croix !» Oui, la foule allait venir. Les sacrificateurs allaient le maudire. Et il y avait tout cela dans cette coupe. Il y avait aussi la mort dans la coupe que le Seigneur Jésus devait boire. Pour nous, la mort, c'est quelque chose de naturel, car nous savons que c'est la fin normale de notre vie ici-bas. En réalité, nous naissons pour mourir. Ça, c'est une vérité à la palisse. C'est incontournable. Mais Jésus était le prince de la vie. Il était la source de la vie. Et de devoir boire une coupe dans laquelle il y avait la mort, c'était quelque chose de dramatique et de révoltant que nous ne pouvons pas imaginer. Il voyait la mort violente, brutale et déchirante. Une mort où, environné de ténèbres, il allait crier sa douleur. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ce n'étaient pas les souffrances physiques qui étaient les plus grandes. Il y avait quelque chose de plus douloureux que la souffrance de son corps, c'était celle de son âme. La mort spirituelle était le paradoxe de sa douleur. C'était le paroxysme de sa douleur. Il allait se sentir séparé de Dieu. Et c'est pourquoi il ne pouvait crier « Mon Père ». Mais il criait « Mon Dieu ». Pour la première fois de toute éternité, le Fils allait être abandonné du Père. Pendant toute l'éternité et durant sa vie terrestre, il avait vécu en communion absolument parfaite avec lui, et il allait sentir cette cruelle séparation. Même le soleil ne pouvait briller devant la mort de son Créateur. Il allait s'obscurcir, et les ténèbres allaient environner la croix. Pourquoi Dieu allait-il le laisser seul au milieu de la tourmente? Ésaïe répond à notre interrogation quand il dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il allait donc mourir à cause de nos péchés. Or les yeux de Dieu sont bien trop purs pour regarder le péché, et c'est pourquoi son regard s'est détourné. Dieu l'a abandonné momentanément parce qu'il s'est fait péché pour nous. Parfois, on nous parle de la mort des martyrs. Certes, il y a eu des chrétiens qui ont cruellement souffert pour leur foi, mais en mourant, ils ont trouvé Dieu près d'eux. Ils ont oublié les flammes, les supplices. Ils ont vu le ciel ouvert. Par exemple, la mort d'Étienne a été triomphale. Le ciel s'est ouvert et Jésus s'est levé en personne pour l'accueillir. Tandis que pour Jésus-Christ, ce ne fut pas la même chose. Ce fut plus terrible que la mort d'un martyr. Il fut abandonné, tandis que le martyr fut accueilli. Je voudrais encore vous décrire ce que Jésus-Christ a vu dans cette coupe. Imaginez la chose ainsi. C'est comme si chacun d'entre vous remplissait une petite coupe avec tous ses péchés, ses passions, ses vices, ses souffrances et ses maladies. Puis toutes ces petites coupes sont versées dans la grande coupe du Seigneur Jésus. Voilà la coupe qui a été présentée à Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémané. C'est la raison pour laquelle il a demandé que cette coupe soit éloignée. Elle le faisait frémir. Cependant, il l'a bu jusqu'à la lie. Je peux voir en vision cette coupe vidée jusqu'à la dernière goutte. Quand le Christ a dit « Tout est accompli », il a voulu dire « La coupe est vide, le salut est accompli, la peine du péché a été portée, la colère de Dieu est tombée sur moi, tout est terminé. » Chers amis, il y a trois mots que j'aime plus que tous les autres dans l'Évangile, et les voici. Tout est accompli, car ces trois mots apportent le salut. Il ne me reste plus rien à faire pour être sauvé. Lui a tout accompli. Il a pris la coupe. Jésus l'a bu jusqu'à la lie, jusqu'à la dernière goutte et, en retour, il vous offre votre justification et votre sanctification. Ne vous glorifiez pas de ce que vous êtes. Tout est accompli. Votre justification, votre salut, tout entier sont dans la coupe. Jésus est mort à cette coupe. Il ne l'a pas laissée vide. Il me semble que je la vois maintenant au pied de la croix. Un soldat romain s'approche et il s'étonne que Jésus soit déjà mort. Et pour s'en assurer, il plonge violemment la lance dans le côté du Fils de Dieu. Et du trou béant, il coule du sang et de l'eau mélangée. Et la coupe est remplie à nouveau. C'est là la coupe du salut. C'est la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Mais que contient-elle? Elle contient tout d'abord le pardon des péchés. Tâchez de bien me comprendre. Vos péchés ne seront pas pardonnés, mais ils vous sont déjà pardonnés. Car sur la croix, Jésus-Christ vous a acquis un plein pardon. C'est quelque chose d'acquis. Et la première chose qu'une personne réalise quand elle prend la coupe du salut, c'est que Dieu a pardonné ses péchés. Quelle différence entre le pardon de Dieu et celui des hommes. Nous disons souvent, « Oh, je te pardonne, mais crois-moi, je ne pourrai jamais oublier. » Ça, c'est pas un pardon. Mais quand le Seigneur pardonne, il oublie tout. Le prophète a affirmé dans Ésaïe chapitre 1 verset 18 « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ésaïe 1 verset 18. Il y a ensuite dans la coupe du salut la paix avec Dieu. Il nous donne sa paix, non pas pour la reprendre comme fait le monde, mais pour que nous la conservions toujours. L'incrédule est toujours en lutte avec Dieu et le Saint-Esprit le condamne. La révolte est terminée quand nous buvons à la coupe du salut et nous devenons des enfants de Dieu. Quand une personne possède la paix de Dieu, elle a la clé de la victoire. Elle surpasse toute connaissance. Il y a aussi dans cette coupe la vie éternelle. Écoutez la promesse de Jésus. Il dit dans Saint Jean, au chapitre 10, versets 27 et verset 28, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Saint Jean, chapitre 10, versets 27 et 28. La vie éternelle est plus que la vie immortelle dans un mauvais endroit. C'est être rendu participant à la vie de Dieu, une vie pure, sainte, heureuse et qui durera toujours. Dans cette coupe, il y a aussi la grâce de Dieu. Tout le monde demande à Dieu son secours. « Seigneur, aide-moi, fais ceci pour moi, donne-moi cela. » La source de toute grâce est dans la coupe du salut. Il prendra cette coupe et plus vous en boirez, plus vous recevrez de grâce. Dieu a dit à saint Paul, « Ma grâce te suffit. Quelles que soient vos difficultés, vos souffrances, eh bien sa grâce sera suffisante pour vous. » Dans cette coupe, il y a aussi la victoire sur le péché.
j'ai entendu des gens me dire « Il y a tant de choses mauvaises en moi, je ne pourrai jamais me débarrasser de mes vices. Je suis d'accord, car je faisais partie de ceux-là. » Mais voici une promesse de la Sainte Parole de Dieu pour vous. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains, chapitre 6, verset 14. Croyez-moi, Dieu veut, il veut vous donner une vie victorieuse. Et enfin, dans cette coupe, il y a l'espérance glorieuse du retour prochain de Jésus-Christ. Il ne veut pas nous laisser sur cette terre de misère, mais il va revenir pour nous chercher. Sa promesse est formelle. Il dit dans Saint Jean, au chapitre 14, verset 3, « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Saint Jean 14, verset 3. Qu'allons-nous faire et qu'allons-nous dire? Peut-être dirons-nous, je prendrai la coupe du salut. Ne remettez pas à plus tard. Dites plutôt, je prends la coupe des délivrances et j'invoque le saint nom de l'Éternel. Oui, j'accepte son salut à la seconde même, pas peut-être un jour. Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux, chapitre 3, verset 15. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'aimerais vous donner quelques paroles que j'ai reçues dans mon cœur pour vous les transmettre. Les voici. Dans tous les dons, celui de la vie éternelle est bien le plus grand. Quiconque le reçoit et amène à montrer la qualité de la vie qui est la sienne, maintenant par la joie et l'absolue confiance et le rayonnement spirituel de tout son être et de son comportement. Je répète, de tous les dons, celui de la vie éternelle est bien le plus grand, et quiconque le reçoit et amène à montrer la qualité de la vie qui est la sienne, maintenant par la joie et l'absolue confiance et le rayonnement spirituel de tout son être et de son comportement, votre vie se ramène à l'existence. Votre présence doit apporter la force et la joie. Celles-ci sont l'expression normale de la vie éternelle. La Bible dit, « Et la vie éternelle, c'est connaître le Père et me connaître, moi, son Fils, celui qui l'a envoyé. » Saint Jean, chapitre 17, verset 3. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Sans faire d'histoire, cette vie peut et doit être reçue par l'homme. Tout ce qui n'est pas simple, digne de l'enfant, doit disparaître. Je ne procède pas en compliquant les choses, et mes disciples doivent eux aussi agir en toute simplicité et toute clarté. Que votre oui soit oui et votre non, non. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 37. La simplicité s'impose d'elle-même. Elle a de la grandeur. C'est une force qui fait céder les obstacles. Prions. Donne-moi tes dons, ô Seigneur. Accorde à tes enfants que l'âme trouve la paix en te magnifiant dans le chant, en louant ton origine éternelle, la grandeur éternelle du Père, l'Esprit égal en majesté, le Fils au centre, qui joyeux et libre de douleur annonce la toute-puissance du Père. Louange à toi, source du Fils. Louange à toi, reflet du Père. Louange à toi, rocher du Fils. Louange à toi, image du Père. Louange à toi, force du Fils. Louange à toi, beauté du Père. Louange à toi, Esprit éternel. Communion du Fils et du Père. Envoie-le-nous avec le Père. Que mon âme reprenne force par la plénitude des dons de Dieu. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et Dieu voulant, à demain matin à nouveau. Au revoir, chers amis.